Première question, c'est de voir votre implication dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et comment vous êtes arrivée là.
Alors, je pense que c'est un rôle très modeste. Je suis arrivée là parce que l'année où le problème du Mont-Saint-Michel a été débattu à Banff, et la personne qui devait représenter la direction du patrimoine avait écrit un article un peu plus que critique dans une revue, et le directeur avait considéré que ce n'était pas possible et qu'il fallait envoyer quelqu'un d'autre. En fait, M. Hainaut était celui qui suivait les dossiers. Bon, c'était la sous-directrice Anne Magnan qui m'a dit « Est-ce que vous voulez aller à Banff, etc. ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Voilà. Et donc, c'est à cause du Mont-Saint-Michel, de l'ensablement de la baie, du problème des rapports avec les projets, épouvantables d'ailleurs, qui étaient à ce moment-là, que je suis là. Et après, je suis allée dans la baie du Mont-Saint-Michel et je suis allée vérifier qu'on ne m'avait pas fait dire des choses scandaleuses. Et c'était très intéressant. Maintenant, de toute façon, moi, j'ai été ensuite inspecteur général du patrimoine et j'ai toujours beaucoup travaillé sur le problème de la restauration des monuments historiques. C'était ça, mon problème, de la doctrine, de l'authenticité, comme on dit au patrimoine mondial. Voilà. J'ai connu très bien Michel Parent, puisque j'ai travaillé avec lui lorsque, en 84, on a fait un colloque à Paris sur justement le patrimoine, tout l'avenir du patrimoine et la notion de patrimoine. Et il était un des rapporteurs. Et donc, moi, j'ai animé toute une séance. Et donc, nous avons beaucoup discuté ensemble. Et puis, j'ai toujours suivi. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait des idées très intéressante. Je comprends très bien qu'on pouvait considérer que c'était un petit peu extraterrestre, mais en fait, c'était quelqu'un d'intelligent qui était intéressé par les sites et pas seulement par le monument, et qui donc avait une expérience très grande. Et j'avais le sentiment de ne jamais perdre mon temps quand je discutais avec Michel Parent. Voilà. Et puis après, alors, j'ai bien connu Léon Pressouire. Je le connaissais d'abord comme chercheur. Ensuite, j'ai découvert à Banff, à un moment où j'ai compris qu'il était en train de démissionner de son rôle. Et néanmoins, il est revenu quand même après. Voilà. Il n'était pas mandaté par le ministère de la Culture, mais je ne sais pas exactement quelle est sa situation. Mais alors, ça, c'était un esprit extrêmement subtil, très bon professeur, qui connaissait l'archéologie, bien sûr, très, très bien. Et j'ai relu certains rapports que vous avez faits sur justement la notion d'authenticité, l'extension au paysage, et il a des remarques qui sont tout à fait, à mon avis, pertinentes sur le fait que la beauté d'un paysage, c'est culturel, ce n'est pas du tout naturel. Et ça, voilà, ça c'est intéressant. Ce qui était vrai et ce que défendait Pressouire, c'est que les paysages ne sont pas beaux en soi, ils sont beaux parce qu'on les regarde à un certain moment d'une certaine façon. C'est-à-dire, je veux dire que les paysages des Alpes, au XIIIe siècle, personne n'en parlait. Et personne ne le voyait, en fait. Et c'est après le romantisme, le XVIIIe siècle et le romantisme, qu'on les a vus. Donc, il y a une étroite proximité entre la manière, les qualificatifs, que ce soit les paysages ou que ce soit les monuments, entre ce que l'on voit et ce que l'on sait aussi.
Alors, disons que vous étiez là entre 90 et 96, je crois.
Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a le plus accroché, c'est le moment où on a essayé de faire passer la notion de paysage culturel. Alors, j'entends bien que c'était tout aussi artificiel. Néanmoins, c'était l'idée que l'homme modifiait le paysage. Et ça, c'est profondément vrai. Et donc, c'était un petit peu aussi, la forme d'opposition de l'Europe et peut-être d'une partie de l'Asie contre le système américain, si vous voulez. Voilà. Après tout, on nous contestait les cathédrales gothiques, etc., en disant que c'était très embêtant. Mais nous, on disait que les parcs nationaux, c'était bien gentil, mais enfin, bon, voilà, c'était vite fini. Tandis que le paysage culturel, c'est-à-dire, par exemple, en France, c'est ce qu'on a fait, la vigne, bon, la vigne qui a modelé, voilà. Et puis, bien sûr, les grandes cultures du sud-est asiatique, les latifondia en Italie. Ça. Et alors, ça m'a d'autant plus amusée que, après, j'ai réussi à faire inscrire Saint-Émilion sur la liste indicative. Je sais que quand j'étais allée à Amsterdam, c'était un peu comme ça, un peu par hasard. Et j'avais été enthousiasmée par les participants, et donc j'étais prête à dire « Mais oui, allons-y, protégeons tout !»
Ça vous parlait de la réunion des experts en 1998.
Oui.
Vous étiez présidente d'une session, si je me trompe.
Oui, c'est
pas.
Ça. Oui.
Et vous étiez responsable pour les critères, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, c'est ça.
La recommandation de mettre les critères ensemble.
Voilà. Et j'étais dans une phase généreuse. Je trouvais que les critères devaient être très élargis, tout en ayant des arrière-pensées sur les critères qui peuvent... Enfin, ce ne sont pas les mêmes critères qui peuvent jouer, à mon avis, pour le patrimoine architectural de type européen ou russe, ou... Voilà, bon, enfin... et puis, les critères d'un paysage, d'un vaste paysage d'Afrique ou d'Asie, ou... Bon, enfin, forcément, dans les définitions, si on veut que ça se ressemble, on trahit un petit peu la réalité, voilà, je pense. Parce que quand on relisait les critères, on se disait qu'on pouvait certainement rapprocher les choses entre les deux domaines culturels et naturels. C'était un problème de rédaction. Néanmoins, il fallait que la rédaction rende compte de la subtilité quand même des différences. Mais ça n'était pas étranger, je veux dire, sur la valeur universelle, mais aussi sur les parentés, sur les aspects techniques, scientifiques. Et c'est vrai que les représentants des différents pays qui étaient là, étaient très... aurait été très content qu'on puisse faire ces rapprochements-là. Parce que j'avais le sentiment qu'ils se sentaient très exclus et que c'était la faute de nos visées du patrimoine culturel qui étaient inflexibles comme ça. Là. Approfondir davantage. Ouais. Parce qu'effectivement, et la nature est très culturelle, et la culture est naturelle, en tout cas pour certains aspects de l'habitat, par exemple, c'est évident. Et même pour les cathédrales, parce que c'est lié aux pierres, à la géologie, donc, ouais. Donc voilà.